Bonjour à tous, Olivier Prêtre, je suis heureux de vous retrouver quelque part sur la planète pour votre émission Mission Planète Terre, les 2e et 4e mercredis du mois de 10h à 10h30 et puis vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site d'IDFM Radio. Alors nous avons aujourd'hui rendez-vous dans l'atelier de Bernard Garot. Bernard Garot, c'est un artiste pluridisciplinaire et atypique. Il travaille et vit actuellement à Nyon, une ville romaine pittoresque qui est située sur les rives du lac Léman et qui a été fondée par l'empereur Jules César il y a plus de 2000 ans. Au fil de sa carrière, la carrière de Bernard Garot, hein, pas de Jules César, au fil de sa carrière, ses concepts l'ont emmené entre Paris, Barcelone et Berlin et plus récemment entre Pékin et Moscou. Après son exposition monographique à Lausanne en 2017, Bernard Garot s'est focalisé sur le développement durable et l'environnement en créant des œuvres en lien avec l'érosion et la géologie alpine qui font désormais partie de son ADN. Et depuis quelques années, il est préoccupé, comme nous-mêmes, par la dégradation accélérée des glaciers. On en reparlera, on parlera de cette dégradation des glaciers suisses d'ailleurs en fin d'émission. Il a pu les observer, mesurer l'ampleur de leur réaction et des conséquences qui en découlent. C'est dans ce contexte qu'il en a fait le thème artistique principal de son œuvre pluridisciplinaire actuelle. Bonjour Bernard Garot.
Bonjour.
Merci de nous recevoir aujourd'hui.
Alors, c'est un plaisir.
Merci. Bernard Garot, où êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire, puisqu'on est à la radio et pour les auditeurs, c'est mieux qu'on décrive un petit peu l'endroit où on se situe?
Je me trouve dans mon atelier en face d'immenses peintures de plus de 3 mètres de haut avec une super lumière zénitale. C'est un ancien complexe industriel qui a été abandonné il y a une quarantaine d'années, que j'ai investi il y a une vingtaine d'années et que j'ai transformé dans une sorte d'atelier de rêve avec une superbe lumière dans lequel je peux développer tous mes concepts, que ça soit mes toiles, mes photographies, les vidéos, les dessins, les installations qui traitent de mes préoccupations actuelles qui sont en lien à ce monde.
Est-ce que c'est aussi une galerie? On peut vous visiter?
Alors, le terme galerie voudrait dire lieu d'exposition. Évidemment, comme il y a 300 mètres carrés, mais j'ai pas assez de place tellement mes toiles sont grandes, elles sont accrochées au mur. Donc, vous pouvez le visiter. D'ailleurs, chaque année, il y a une journée des arts à Nyon où on fait porte ouverte des ateliers et les gens peuvent venir voir, mais on peut aussi me demander rendez-vous. Mais c'est pas un lieu purement d'exposition parce qu'il est surchargé de toiles en cours, en développement. C'est un lieu à visiter parce qu'on y voit l'énergie du travail, l'engagement et la recherche. Une galerie, c'est plus un lieu où on expose une sélection d'une manière extrêmement épurée pour donner du sens. Ici, il y a une sorte d'énergie vitale et d'urgence qui est liée à ma création, mais je trouve que c'est très intéressant de voir ça aussi.
Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter sur le portrait que j'ai fait en introduction de vous, Bernard Garot?
Ben écoutez, je pense qu'il est très bien fait. Je suis dans cette urgence de ce lien de l'homme avec l'environnement. Et ma préoccupation principale est cette vulnérabilité humaine face au monde, face au développement plutôt négatif lié au réchauffement climatique et la fonte des glaciers. Alors je travaille autant avec des matériaux naturels sur des toiles que je vais prélever moi-même. Oui.
Alors on va en parler. Vous ouvrez donc votre peinture sur une perception multiple, à la fois oui. Émotionnelle et technologique, scientifique et philosophique. Quels sont les liens que vous mettez en place donc et les matières que vous utilisez?
Oui, justement, pour moi, l'art doit être équivoque, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir ouvrir à une pensée qui est plurisensorielle, philosophique, parce que si on donne qu'une direction, on oblige les gens à un regard, alors que la peinture a cette ouverture d'esprit, et en fait, dans ma peinture même, j'utilise les éléments mêmes de l'environnement que je visite. C'est-à-dire, je vais prendre des roches volcaniques quand je vais voir des volcans, je prends des sables, de l'érosion au pied des glaciers, et que je mélange et que je mets dans ma peinture. Donc, la peau de mes toiles ont peut-être la mémoire de nos origines. C'est presque, elles ont des millions d'années. Donc, la nature même est dans la toile. Elle n'a pas besoin d'être descriptive. Elle est cet environnement. Et en fait, c'est ça mon lien à la nature, c'est d'amener la nature dans la toile. Quand je travaille la photographie, je travaille aussi avec des développements au charbon. C'est-à-dire, le charbon, c'est déjà à l'origine du réchauffement climatique, on développait les premières photos au charbon. Donc, j'ai fait des tirages au charbon pour dénoncer la pollution qui aujourd'hui fait l'accélération des glaciers. Donc, il y a tout un processus qui va au-delà du visible. D'ailleurs, Paul Klee a dit que l'art, c'est de rendre visible, c'est pas de reproduire la nature. Et se rendre visible, c'est montrer des fois l'invisible des choses. Notre monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à voir qu'on n'arrive pas à percevoir l'ensemble. Donc l'artiste fait des choix par un cadrage, par une lumière, qu'il essaie de donner du sens, une profondeur qui touche à l'émotion. L'émotion, c'est le plus haut degré de l'art, selon Deleuze. Et puis aussi, qui amène à penser autrement, à regarder autrement et à agir. L'art est une manière de communiquer, d'apporter un regard sur notre monde qui est tellement chaotique et multiple qu'il est important qu'on essaie de lui donner du sens.
Alors et oui. J'imagine que vous vous déplacez, vous allez voir les glaciers, vous allez sur les glaciers aussi.
Ah, c'est fondamental. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'une chose sans les connaître. J'ai même été au fond d'un glacier où la glace avait 2000 ans d'âge, pour pouvoir percevoir vraiment comment toutes ces strates de saisons qui vont disparaître dans moins de 100 ans. Et pour moi, ça a été une révélation. Donc, je m'allie à des scientifiques, à des techniciens de la montagne, c'est-à-dire des guides, des géologues, des glaciologues. Sans eux, je pourrais pas parler des glaciers. Après, moi, j'apporte un regard qui est encore différent, qui lie l'homme à ça. Il n'y a pas que la notion scientifique, il y a l'émotion, il y a la perception qui est mon âme. Voilà, ce regard multisensoriel que peut-être le scientifique n'a pas, mais je l'enrichis de la connaissance du scientifique et de mon regard et de mon expérience du terrain. C'est fondamental.
Alors, je crois que vous déposez des documents parfois aussi au fond des glaciers dans les glaciers.
Oui. Voilà, alors il paraît qu'au début du siècle, ouais, il y a déjà eu ça sur le Mont Blanc. Effectivement, j'ai fait une capsule temporelle avec dedans des témoignages actuels, une photo du glacier aujourd'hui, avec des témoignages scientifiques de roches qui sont utilisées dans l'extraction de certains du lithium, pour montrer l'état de la science aujourd'hui. J'ai même rajouté des textes d'enfants qui parlaient de glaciers, qui disaient « Oh, glacier, j'espère que tu vas rester encore longtemps », etc. Et j'ai mis dans une capsule temporelle que j'ai intégrée dans un glacier, et c'est marqué que celui qui retrouvera ça devra amener au musée des sciences naturelles de Genève, où j'ai eu une résidence d'une année plurisensorielle, pluridisciplinaire. Oui.
Alors, cette capsule, elle est déposée en profondeur?
Oui, à plus de 20 mètres de profond. Oui. Donc, je pense que ça va se découvrir assez vite, malheureusement, au vu du réchauffement actuel.
Oui. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, on prévoit que sur la fin de ce siècle, en fait, il resterait sur les 140 glaciers, je crois, en Suisse, qu'il n'en resterait plus.
1400. On a 1400 glaciers en Suisse sur les 22 000 dans le monde.
Ouais. Ouais. C'est énorme.
C'est énorme, oui.
Ouais. Dites-moi, alors, quel est l'art que vous préférez le plus? Est-ce que c'est est-ce que c'est tous les arts, mais est-ce que c'est plutôt la peinture? Est-ce que c'est la photographie? Ou est-ce que c'est le cinéma? Parce que je sais que vous faites aussi des films, vous réalisez des films, vous produisez.
Alors, écoutez, c'est une question difficile. Moi, je suis premièrement peintre. C'est-à-dire que j'ai cette faculté d'amener par la main des roches, de faire des amalgames, de faire une sorte de peau, une structure et d'exprimer ça. Mais c'est lié à un regard, et ce regard a toujours été photographique à côté. Simplement, on m'a dit, voilà, je suis peintre en sortant d'une école d'art. Mais par contre, la photo m'a toujours accompagné. Et quand j'ai réalisé que ma photographie avait aussi une force d'expression, j'ai gardé les deux. Et depuis que je me suis associé avec Marc Descoster, un réalisateur de films qui fait du montage et la musique, on s'est associé pour faire des films qui lient ma peinture, ma photographie. En fait, c'est moi qui apporte l'image et lui, il fait ce montage absolument fantastique. On y rajoute la musique et je pense que c'est un apport très très fort aujourd'hui dans l'art contemporain, qui touche un autre public et qui ouvre les champs de perception. Parce que c'est pas le même public qui va au cinéma, même si c'est des films d'art et d'essai, que celui qui va dans une galerie, que celui qui veut voir des photographies. Donc c'est très important pour communiquer d'être aujourd'hui dans une pluridisciplinarité. Je me pose même pas la question de dire je suis peintre, je suis photographe, je suis artiste avant tout, qui essaie d'amener du sens par les meilleurs moyens possibles, supports possibles, et ma force d'expression est cette multiplicité, oui.
Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui en tant qu'artiste, avec ce que vous avez vécu, hein, avec votre passé, avec vos préoccupations actuelles, peut-être plus sur le développement durable, sur vos préoccupations en matière de fonte des glaciers ou de disparition des glaciers.
Oui, c'est alors.
Quel message vous souhaitez faire passer?
Ben, c'est notre vulnérabilité, notre inconscience, ça cela, on est en train de détruire notre environnement de manière tellement rapide que c'est un choc absolu et on prend pas conscience. C'est vrai que c'est une préoccupation universelle et mondiale, l'environnement, mais pas assez importante. La Suisse était recouverte de glaciers, totalement recouverte de glaciers il y a 25 000 ans, c'est pas si longtemps que ça. Et en fait, on a c'est l'ADN de mon pays, même la France était recouverte en partie, et aujourd'hui tout ça va disparaître dans moins de 100 ans. Et c'est plus que une beauté chaotique de glace, c'est une mémoire anthropique. Il y a la plus vieille glace dans nos Alpes à 50 000 ans. Et c'est-à-dire qu'on pourrait y lire l'histoire de notre humanité sur 50 000 ans. Et tout ça va disparaître. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est comme si j'enlevais des pages du dictionnaire de la langue française et on perd une moitié de la langue. Et pour moi, cette vulnérabilité face à l'environnement et aussi notre impact sur l'environnement est vraiment quelque chose de fort. Et j'ai envie en étant un exemple, en utilisant le moins, en polluant le moins possible, en allant révéler, en allant sensibiliser les gens face aux glaciers par ma peinture, mon cinéma, ma photo. Voilà.
D'accord. Et vous ramenez des morceaux de glace ou pas?
Oui, bien sûr. Des roches surtout, parce que la glace, elles fond vite. Et je peins même avec la glace des glaciers. C'est-à-dire que j'ai fait une performance où j'avais une glace qu'on pouvait dater, qui avait 50 ans d'âge. Je l'ai mis sous microscope électronique. On a analysé toutes les microplastiques et la pollution, voire les éléments qui s'y retrouvaient. Et l'œuvre faite, on ne voit pas de différence, mais c'est de savoir ce qu'il y avait dans cette eau. C'est de faire prendre conscience de tout ce qu'on fait avec les moyens qu'on fait.
C'est extraordinaire. Hein. Enfin, c'est j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui, Bernard Garot. Est-ce que vous avez des projets immédiats? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment? J'ai compris tout à l'heure que vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup de toiles en cours. C'est ça?
Oui, et une immense de plus de 6 mètres qui est une immense crevasse qui donne l'accès à cette fin du monde, c'est au temps passé, à un endroit dont on ne connaît pas tant de choses. Les gens se préoccupent plus du sommet des montagnes, elles sont spectaculaires, elles sont belles, alors que le glacier, c'est le manteau mité de cette montagne qui a toute une histoire et qui cache en fait des trésors. Mais en fait, il faudrait mieux qu'il reste caché parce que si la glace fond, on pourra avoir un problème d'eau potable parce que souvent, il y a des minéraux et des minerais qui fait que l'eau actuelle qui est potable ne deviendrait pas potable comme au Pérou où certains glaciers ont disparu, où ça pollue tout. Il y a vraiment des conséquences gravissimes qui vont se passer, qui vont pouvoir toucher 3 milliards de la population mondiale si la glace fond. C'est pas juste la Suisse. Et ça, c'est une vraie problématique. Et moi, je suis, en tant qu'artiste, je suis concerné par ça parce qu'un artiste contemporain, il essaye d'être lié à ce qui se passe aujourd'hui et à porter un regard. J'ai pas de solution, mais je peux sensibiliser, je peux toucher, je peux me voir. Et je me démène de toucher le plus large possible, sans séduction, hein, en étant radical dans mon travail, de trouver les possibilités de m'exprimer et de dire cette préoccupation qui me touche. Ouais.
Bien, Bernard Garot, je vous propose de faire une courte petite pause musicale, et puis on se retrouve tout de suite après.
Qu'elle soit intarissable, quel trou dans notre seau nous fait creuser le sable du moindre ruisseau. Pour quelques grammes d'or, on abîme, on abat, sans voir le vrai trésor filer entre nos doigts. Comme il pèse dans nos poches, carasses et cailloux, comme des éclats de roche, font des chaînes à nos coups. Qui sera le plus riche? Qui sera le plus beau? Le champion sur l'affiche, quand il n'y aura plus d'eau. Laisse-moi seulement t'aider à fermer le robinet qui coule de tes yeux. C'est trop précieux, l'or bleu. Avant qu'il ne s'évapore, que l'on pille notre trésor, laissez-nous encore un peu vivre d'amour et d'or bleu. Vivre d'amour et d'or bleu. On est de ce métal à 80%. Est-ce tout ce que valent nos larmes et notre sang? Et regardez briller ces paillettes sur ta peau au soleil de juillet. Sais-tu combien ça vaut? Laisse-moi seulement t'aider à fermer le robinet qui coule de tes yeux. C'est trop précieux, l'or bleu. Avant qu'il ne s'évapore, que l'on pille notre trésor, laissez-nous encore un peu vivre d'amour et d'or bleu. Vivre d'amour et d'or bleu.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Après cette pause musicale, on retrouve notre invité, Bernard Garot. Donc Bernard Garot qui est dans son atelier de Nyon, au bord du lac Léman, cette petite ville romaine pittoresque. Et au fil de sa carrière, on le disait tout à l'heure, ses concepts l'ont amené entre Paris, Barcelone et Berlin, plus récemment entre Pékin et Moscou. Et on le retrouve aujourd'hui dans son atelier. À nouveau bonjour Bernard Garot, merci de nous recevoir dans votre atelier.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Et parlons des projets.
Voilà, hein, parlons des projets. Voilà. Quels sont vos projets, Bernard Garot?
Oui.
Alors, je sais que vous êtes un fidèle candidat du Festival international du film sur les glaciers. On va en profiter pour rappeler la date de la 9e édition de ce festival, qui est organisé donc à Genève, à la Maison des Arts du Grütli, et qui se déroulera du jeudi 4 décembre au dimanche 7 décembre, avec une soirée spéciale donc en ouverture de ce festival, puisqu'il y aura un concert intitulé Vibrations, avec des projections de photos, certainement les vôtres aussi d'ailleurs, Bernard Garot, je crois. Et donc ce concert Vibrations, tous les bénéfices du concert seront reversés intégralement à la reconstruction du petit village de Blatten, qui a été détruit par une coulée.
Ça tombe bien.
Voilà.
Ça tombe bien.
Pourquoi ça tombe
Puisque le film que je vais présenter s'appelle Torrential Lava, donc lave torrentielle. C'est ce qui a secoué notre pays en détruisant, en anéantissant, en engloutissant un village entier. Mais il y a eu la même chose en France, en Italie, plus ou moins partiellement. Mais c'est vraiment la problématique actuelle du réchauffement. Des structures qui désolidarisent la glace de la montagne et les glaciers s'effondrent, les roches, la glace qui tenait les roches, est en train de se défaire et créer des accidents catastrophiques dans la montagne. Et en fait, c'est un film émotionnel, musical et visuel pour faire vivre ça. Ouais.
Alors, où est-ce que vous avez été tourner ce film?
Alors, en fait, c'est beaucoup d'archives de photos, que ce soit entre le glacier du Rhône. J'ai été à Blatten, mais j'ai pas voulu utiliser le côté un peu opportuniste de montrer l'actualité. J'ai plus voulu être générique. J'étais dans le massif du Mont Blanc. Il y a des glaciers de toutes parts dans ce film et beaucoup aussi de dronage, de peinture que j'utilise. Donc il n'y a pas un lieu précis pour parler de la potentielle qui touche finalement toute l'Europe alpine. Voilà.
Très bien. Alors, c'est pas le premier film que vous réalisez. Vous en avez
Déjà, vous en avez 8, 9, ouais, 8 ou 9, ouais.
Vous les avez tous présentés au Festival international du film sur les glaciers?
Pratiquement tous, ouais, oui, tout à fait. Et on en est d'ailleurs très fiers, et ça serait la 4e fois de suite où on serait dans votre festival, où parfois on a montré 2 films. C'est des courts-métrages, hein, d'une dizaine de minutes, entre 6 et 10 minutes, qui se veulent être art et essai, donc ça touche un public quand même particulier. C'est pas des films documentaires. Il y a toujours l'acte pictural dedans, la peinture, ou bien c'est un film, comment dire, performatif. On me voit descendre au fond d'un glacier, aller déposer une stèle ou un caillou trouvé sur le lac Léman que je vais ramener à son lieu d'origine. C'est toujours des films qui ont du sens et qui essayent de toucher sur cette actualité du réchauffement climatique, du développement durable et de la fonte des glaciers. Et pour moi, c'est très important qu'on ait une ligne de conduite. Ça me travaille depuis bientôt une dizaine d'années, même plus, hein, mais... je me focalise là-dessus et je crois que c'est une œuvre qui se tourne autour entre peinture, film et photographie. Tout est lié dans les films. Et peut-être le film, c'est le lien commun de toute mon œuvre. C'est pour ça que j'en suis extrêmement fier et je crois que le dernier film est très percutant. Hein.
Alors j'ai eu la chance de le visionner dans le cadre de la préparation, de la programmation donc de ce festival. Je peux vous dire qu'avec mes collègues, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions en regardant ce film.
Alors il y a des time-lapses de glaciologues, hein, de Luc Moreau. Les images du glacier qui bouge, ce sont des images de scientifiques, des photos prises tous les 10 jours.
Impressionnant.
Sur glacier. Et vous voyez cette montagne qui descend, c'est un choc absolu. Hein. Franchement.
Alors quels sont projets, Bernard Garraud?
Ben, écoutez, moi, je suis touché par ces glaciers. Donc, le glacier du Rhône, qui est quand même la source d'un fleuve majeur pour la France et la Suisse, il est en train de fondre et il y a des bâches qui le recouvrent. C'est un choc, mais vraiment émotionnel, très fort. Et j'ai décidé de faire un livre d'artiste, avec des témoignages de glaciologues, avec des photos originales, même des gravures anciennes de ce glacier. Et des œuvres à moi qui seraient mises dans la glace. Donc ce livre d'artiste de grand format serait mis dans la glace et dans un congélateur transparent pendant le temps de la fonte du glacier. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce livre, de dégeler tant que le glacier n'aura pas disparu. Donc ça veut dire 60 ans, 50, 100 ans, je ne sais quoi. Et ça veut dire que le jour que le glacier aurait disparu, ça sera la seule mémoire restante du glacier. Elle sera peut-être détériorée un peu par les 60 ans dans la glace, mais vous achetez un livre qui est la mémoire de ce glacier, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. C'est un peu l'inverse de Fahrenheit 451 de Truffaut. Pour moi, c'est un symbole et un acte majeur pour faire réfléchir sur le temps long, sur la mémoire. Et il y a des objets qu'on trouve aujourd'hui dans les glaciers qui datent de 50 ans, 100 ans, des traces d'un alpiniste disparu, d'un avion qui s'est écrasé, de documents qui ont été perdus. On a trouvé Yotsi qui a plusieurs milliers d'années. Donc, pour moi, c'est parler de ça. Et sans acte fort émotionnel, comment toucher la population sur ce qui se passe dans nos montagnes? Dans nos montagnes, c'est le réchauffement climatique le plus rapide du monde. Hein, faut quand même savoir.
C'est vrai que les glaciers nous renvoient tout. Mais alors, petite question peut-être stupide, hein, Bernard Garraud, mais pratique. Comment le congélateur va fonctionner?
Alors écoutez, j'aimerais qu'il... Alors, ça devra être la recherche d'un ingénieur. J'aimerais qu'il soit énergie verte, évidemment, panneaux solaires, etc. Ça veut dire qu'il y a quand même des... S'il doit être transporté dans une exposition, on devra peut-être le brancher à une autre énergie le temps du transport, mais le but, c'est qu'il puisse être le plus autonome possible énergétiquement. Ça, c'est la problématique dont je n'ai pas toutes les solutions, mais évidemment, il faudra faire appel à des ingénieurs, d'où il faut des fonds pour faire non seulement le projet artistique, mais aussi le projet technique. Je trouverais génial d'aller exposer ça. Alors, exposer un livre comme ça dans la glace, comme une icône, c'est magnifique. En même temps, c'est beau. J'ai congelé des livres que j'ai décongelés pour voir comment ça fait. J'ai fait des films sur des natures mortes qui décongelaient. C'est un peu dystopique. C'est très beau. Donc, ça résiste. Mais j'ai pas mis 60 ans. Hein. J'ai mis peut-être une année. Voilà. Dans mon congélateur, il y a plein d'objets qui sont congelés, que je filme en décongelant. Vous voyez, j'expérimente des choses et des glaces de glaciers. Mais pour moi, c'est très important. Et en plus, j'aimerais bien un jour faire aussi un livre sur mes photographies de glaciers parce qu'aujourd'hui, c'est un témoignage très, très important. Et tout ça, ce sont des projets en plus d'une toile immense que je fais actuellement avec
Cette toile, elle devrait être exposée où?
Bah écoutez, pour l'instant, je dois la finir pour fin octobre parce qu'elle sera dans mon atelier au début novembre, porte ouverte. Mais après, j'aimerais l'envoyer dans une exposition internationale au nord de l'Allemagne, où j'espère être sélectionné, mais j'ai beaucoup de chance de l'être, en tout cas, je pense. Et puis après, ben, si possible, la montrer, pourquoi pas, une fois dans votre festival ou ailleurs, hein. Pour moi, il y a pas de souci. Ouais, évidemment, c'est pas des actes très commerciaux, hein. Aujourd'hui, beaucoup de galeries pensent à vendre, faut l'artiste qui puisse vendre. Moi, je fais un acte d'art. C'est vrai que j'ai besoin d'agents, de galeristes pour vendre mon œuvre, mais c'est vrai que je fais d'abord un acte, j'aime pas le mot militant, mais un acte d'engagement. Parce que pour moi, aujourd'hui, on est dans une période d'urgence absolue, et moi, je vis dans cette urgence. Hein. C'est pas, j'essaie pas d'être opportuniste ou de me complaire à dire c'est à la mode. Je suis un des précurseurs. Je suis déjà depuis très longtemps sur le terrain. Et aujourd'hui, tout le monde fait des glaciers. D'ailleurs, il y a un grand critique d'art français, Nicolas Bourriaud, qui a dit que l'art du XXIe siècle, qui n'est pas encore dans les livres d'art, ce sera l'art de l'environnement. Ou l'art de la société. C'est vrai que les jeunes artistes parlent beaucoup du genre, de ces problématiques sociétales, mais les artistes peut-être déjà qui ont un plus grand parcours, c'est plus l'environnement. Et vous allez voir que tout le monde va parler de ça, mais il y aura aussi l'opportunisme d'en parler, et moi je pense qu'il faut être à l'avant-garde, il faut être dans les premiers, et à expérimenter des choses sincères, pas juste faire une image de l'environnement. Moi je vais sur les glaciers, je prends des risques, je vais avec des guides, c'est un travail acharné, mais c'est la seule manière de comprendre et de saisir et d'avoir l'émotion que vous pouvez transmettre ensuite, voilà.
Juste une précision, parce qu'on parlait donc de la fonte des glaciers pour la fin de ce siècle, là. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps par des chercheurs, donc en Suisse, de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, qui se sont associés aussi à ceux de l'Institut Fédéral de Recherche sur la Forêt, la Neige et le Paysage. Oui. Et il y a un professeur qui s'appelle le professeur Farinotti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour lui, les preuves sont irréfutables, le recul des glaciers s'accélère. Alors, on peut pas être, il faut pas qu'on soit non plus complètement pessimiste, parce que dans le meilleur des cas, on aura, dit-il, une perte de 60% par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Ça, c'est si on arrive à se tenir aux accords de Paris et la limitation à 1,5, voire, bon, allez, 2 degrés maximum par rapport au niveau pré-industriel d'augmentation de la température. Et on se retrouvera très probablement sans glace dans les Alpes à la fin du siècle, conclut le chercheur, mais il faut qu'on fasse tout ensemble, et vous y participez grandement, en tant qu'artiste, etc., à faire en sorte qu'on ne dépasse pas ces 1,5 degrés à 2 degrés. Oui. Donc il faut qu'on ait un message optimiste aussi, et vous êtes un artiste.
Oui, pour rester optimiste. Alors le film peut être dramatique, mais je pense qu'il faut garder l'optimisme, parce que je pense que l'artiste participe autant que le scientifique au politique à ce monde, et c'est ça que peut-être le message depuis ces dernières périodes. Avant, l'art c'était peut-être quelque chose de commercial, etc. Aujourd'hui on se retrouve dans une période de clé pour l'art aussi, il a un rôle à jouer pour la prise de conscience. Par contre, on sait que probablement les glaciers vont disparaître, c'est inéluctable, mais on sait que si la population mondiale décroît ou qu'il y a des éruptions volcaniques soudaines très importantes, on retrouvera les glaciations. Et quand notre humanité ne sera plus là, la glace va revenir, et le monde a déjà eu des périodes sans glace. D'ailleurs, du temps des Romains, on était à une période à peu près similaire à aujourd'hui. Il y a eu une courte glaciation du Moyen-Âge jusqu'à 1860, à la période industrielle, qui est le début du réchauffement climatique, etc., qui a fait que les glaciers avançaient aussi vite qu'ils reculent aujourd'hui. Et il faut prendre conscience qu'il y avait même plus de CO2 il y a peut-être plus de 100 000 ans en Europe. Donc il y a des cycles comme ça qui sont de 100 000 ans, qui sont perturbés aujourd'hui par notre activité, par la pollution, etc., qui fait qu'il y a une accélération. On a perdu en 10 ans 25% de la masse de glace. Donc, si vous calculez, dans très peu de temps, il n'y aura plus rien du tout. Ouais. Et c'est quand même alarmant. Et c'est dommage, parce qu'on perd quelque chose d'extraordinairement riche et symbolique. Et voilà. Alors, et je pense qu'il faut vivre positivement, en sachant que la glace va revenir. Mais merci. En quoi, comment, je ne sais pas.
Merci Bernard Garraud pour ces mots de conclusion, on va dire. Et on était ravis de vous recevoir. Donc, on donne rendez-vous à tous ceux qui pourraient ou qui passeraient par Genève, donc le dimanche 7 décembre, pour vous rencontrer, parce que vous serez là pour présenter votre livre.
Avec grand plaisir.
Et puis pour ceux, peut-être qu'il y a des mécènes qui vont nous écouter, s'ils veulent vous contacter, on peut vous retrouver, je crois, sur les réseaux sociaux. Peut-être.
Oui, et le site, si vous donnez mon site, on peut me retrouver. Ouais.
Allez-y, donnez votre site, Bernard Garraud.
Oui, c'est bernardgarraud.com. Voilà.
Ah, voilà, sur Bernard Garraud, G-A-R-O.com.
Ouais.
Et merci de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci à tous d'avoir écouté cette émission sur IDFM Radio avec Francky qui réalise cette émission et moi-même. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci, au revoir Bernard Garraud.
Merci beaucoup, au revoir Olivier. Au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
à tes cauchemars. Tu m'appelleras la nuit, tu auras peur dans ton lit. Et là, tu me verras sur ton cheval de bois. Je serai
bien sur IDFM Radio.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai. Même sang, le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse me touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse me touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse me touche toi et moi, prends ma main, dis. Branle-la. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Même sans. On s'aimera.
Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. Blow my mind. Set off my whole body.
made me water,
made me sweat, made me hot.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer,
et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité, qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Y'a rien de... IDFM Radio, le média valdoisien.
Somebody to lean on.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
J'ai 7 ans ce matin-là, je sens mon corps se contracter. Est-ce bien réel, je ne comprends pas. Le temps d'un souffle, tout a changé. Sous leur mépris, je perds mes mots, comme des éclats qui me déchirent. Et les regards me clouent au tableau, et chaque mot me pousse à fuir. J'ai 12 ans et j'ai si froid, la tête plaquée contre le sol. Je suis une larme de mes doigts, au milieu de la cour d'école. Quand vient le soir, je suis dans ma chambre, je me retrouve seule face à mes questions. Je crie pour que quelqu'un m'entende, mais seul le silence me répond. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. J'ai 16 ans et je les vois qui rient encore, qui me tournent le dos. Tu donnes ton corps, tu fais la tana, des moules lancés comme des couteaux. Un soir de plus, une fois de trop, je m'abandonne, je ferme la porte. Et des langues qui coulent aussitôt, et j'attends que cette nuit m'emporte. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Je ne suis qu'un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait.
J'entends encore la voix de mon père, ça ne peut plus continuer comme ça. Écoute ma fille, reste fière. Soit tu te perds, soit tu te bats. Papa, j'ai réfléchi et je vais continuer à y croire. Ce monstre fera partie de ma vie.
Ce sera mon histoire. Je suis plus un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je mérite enfin d'être aimé, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il fallait. Je suis plus un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je mérite enfin d'être aimé, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il fallait. Qu'on ne veut pas approcher, je mérite enfin d'être aimé, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il fallait.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio vous invite à sa Halloween Party vendredi 31 octobre de 18h30 à 23h. Rendez-vous à la salle des fêtes dans Galles-Bains avec vos plus beaux déguisements pour une soirée dansante endiablée. Sur scène, les artistes Clara Viola et le groupe Slow Rock. Distribution de bonbons, DJ, tombola, diseuse de bonne aventure, les contes qui font peur et bien d'autres surprises. 7€ l'entrée sur place et 5€ via Hello Asso. Gratuit pour les mineurs, accompagné d'un adulte. Halloween Party, vendredi 31 octobre, à partir de 18h30 avec IDFM Radio à la salle des fêtes dans Gain-les-Bains.
Happy Halloween avec IDFM Radio.